Quand je présente Wikipédia à mes étudiants, je commence souvent en disant que tout le monde connaît Wikipédia, mais que peu de gens connaissent bien Wikipédia. C'est une situation idéale pour un enseignant, intéressé avec quelque chose qui parle aux gens, mais pouvoir les surprendre, parce que sous la surface de l'encyclopédie que n'importe qui peut modifier, se cache un monde qui révèle beaucoup de choses sur le monde numérique. Ou plutôt, ce monde ne se cache pas, puisque la transparence est une de ses caractéristiques. J'y reviendrai. Wikipédia est un monde, ça veut dire que c'est un monde différent de celui auquel nous sommes habitués. Différent du point de vue de comment les gens s'organisent, comment les gens interagissent, comment les gens œuvrent à créer quelque chose en commun, comment les gens sont mélangés à la technique, au logiciel. Par exemple, c'est un monde où il n'y a pas de pays. Wikipédia en français, c'est la Wikipédia de tous ceux qui parlent français dans le monde. Il ne faut pas être naïf. Les problèmes de droit français ou de droit américain ou de droit d'autres pays s'y posent. Mais ils ne s'y posent pas de la même manière qu'en France. En disant ça, je ne veux pas simplement dire qu'il y a une différence entre monde d'Internet et monde réel. Wikipédia est un monde complètement différent de Facebook, un monde complètement différent de Google, dans les interfaces, dans les pratiques, dans les règles, dans les CGU, les conditions générales d'utilisation, dans les licences, dans les algorithmes, dans l'économie et aussi dans la politique. Et d'ailleurs, Google et Facebook sont des mondes complètement différents de l'un de l'autre aussi. Mon but, c'est d'étudier ce monde, faire toucher du doigt comment Wikipédia est un monde avec des aspects techniques. Qu'est-ce que le wiki? Que sont les bots? Des aspects politiques. Les Wikipédiens sont souvent des militants du libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des aspects sociologiques. Comment la communauté des contributeurs vit-elle? Bureaucratique. Comment s'organise-t-elle? Juridique. Quel est le rapport de Wikipédia avec la loi? Que sont les licences d'utilisation? Et même épistémologique. Comment est produite la connaissance dans Wikipédia? Pour le redire de manière plus académique, je vois Wikipédia comme une hétérotopie. J'emprunte à Michel Foucault ce terme qui désigne, pour faire vite, une utopie en train de se réaliser. Un monde qui a ses propres règles, ses propres pratiques, un monde rêvé par une communauté de gens, mais qui se réalise effectivement, quelque part, ailleurs, un monde bien réel, mais en dehors du monde habituel, administré, comme dirait Foucault. Ça ne veut pas dire qu'une hétérotopie est un paradis. Foucault cite en exemple la prison, le Club Med, le cimetière, le bordel, le jardin. Les hétérotopies ont pour caractéristique d'être différentes, d'être aux marges, de signifier plus que ce que le monde administré y voit, mais aussi d'être un miroir déformant de la société, qui nous apprend quelque chose sur nous. Mieux connaître tous ces aspects de Wikipédia, de cette hétérotopie, c'est une façon d'appréhender la culture numérique, c'est-à-dire le fait de comprendre le monde numérique qui nous entoure, et de l'aborder par un objet, une étude de cas, à la fois hors du commun et omniprésent. Je suis donc historien des sciences, et ma période de spécialisation est une époque très récente. Il s'agit des années 90 et des années 2000. Je m'intéresse aux conditions de production de la science, et en particulier la science qui utilise les ordinateurs. Le défaut de l'histoire des sciences computationnelles est de souvent trop s'intéresser au matériel et pas assez au logiciel. J'argumente que le logiciel, en tant qu'instrument scientifique, est un objet très complexe, à la fois scientifique, il s'agit de produire de la connaissance, technique, il faut programmer, mais aussi économique, les logiciels se diffusent, et juridique, ils se diffusent selon des règles, mais aussi éthique, voire politique, et que tous ces aspects sont entremêlés avec la production de connaissances, avec l'épistémologique. Vous voyez peut-être poindre le lien avec un intérêt pour Wikipédia. Ça ressemble à ma description des aspects de Wikipédia que je viens de faire. Ma deuxième caractéristique en tant qu'historien est méthodologique. Je ne fais pas d'histoire de héros, je m'intéresse plus aux anonymes, et plus exactement, je m'intéresse à leurs débats plutôt qu'aux individus et à leurs résultats scientifiques. Pour cela, je dépouille des forums de discussion, des mailing lists de courriers électroniques. Vous comprenez pourquoi ma méthode ne peut s'appliquer qu'à une histoire très récente. Et voici pourquoi on peut faire une histoire de Wikipédia, un objet pourtant très récent, qui appartient autant au présent qu'à un passé récent. Wikipédia a 16 ans. C'est que Wikipédia est une archive transparente. L'historien, et tout le monde, peut y lire toutes les versions de tous les articles depuis leur création. Comment ils ont été modifiés et par qui. Et il y a plus. Wikipédia, c'est une communauté de contributeurs et de contributrices qui n'arrête pas de débattre à propos des articles ou des règles de l'encyclopédie. Et tous ces débats sont archivés à l'intérieur de l'encyclopédie. Donc Wikipédia, c'est aussi une histoire de logiciel. Tout d'abord, l'encyclopédie repose sur MediaWiki, le logiciel dit de Wiki qui permet à n'importe qui d'écrire sur une page web, donc de rendre ce projet possible. À la fin des années 90, le World Wide Web a quelques années d'existence pour le grand public, et les pages web sont faites pour être lues, pas modifiées. La métaphore couramment utilisée est que le web de cette époque était une bibliothèque et qu'il allait devenir ensuite un centre commercial, le fameux Web 2.0. Le Web 2.0 lié à l'avènement des réseaux sociaux grâce entre autres à la possibilité technique d'intervenir sur des pages web. À cet égard, Wikipédia fait à la fois partie du nouveau monde 2.0, on écrit l'encyclopédie soi-même, mais pourtant, il est aussi un idéal de l'ancien Internet, celui des pionniers, un Internet radicalement anticommercial, et quasiment le seul représentant de cet Internet connu du grand public. Vous savez peut-être que le succès de Wikipédia est très lié à son excellent référencement dans les moteurs de recherche, en particulier Google, qui est devenu entre-temps hégémonique. De ce point de vue, Wikipédia est un ovni parmi ses compagnons de haut référencement. C'est le seul site à n'être pas commercial dans les sites les plus fréquentés au monde. Et l'absence de publicité dans Wikipédia, un choix politique, représente un manque à gagner qui se chiffre en milliards de dollars annuels, soit 10 à 100 fois le budget de la fondation à but non lucratif qui l'héberge. Mais la pertinence de l'analyse logicielle de Wikipédia ne s'arrête pas là. Wikipédia est un représentant du monde du logiciel libre. Encore une fois, le seul représentant de projet open ou free qui soit connu du grand public. C'est-à-dire que Wikipédia est aussi très politique, bien que bon nombre de ses contributeurs s'en défendent. C'est un projet qui adopte les principes du libre, comme la collaboration horizontale, les normes du libre, comme la transparence absolue, les pratiques du libre, comme le forking, c'est-à-dire la possibilité de séparer un projet en deux et le mener dans deux voies différentes, comme par exemple LibreOffice ou OpenOffice. Plus exactement, c'est un projet qui traduit ces principes, normes et pratiques du libre dans un monde autre que le monde du logiciel. Le monde d'une encyclopédie grand public. En particulier, comme dans le monde du logiciel, la question de la licence d'utilisation, des conditions générales d'utilisation, est essentielle. Ces conditions ne sont pas du tout cachées en petits caractères que personne ne lit avant de cliquer « j'accepte ». Elles sont le troisième grand principe de l'encyclopédie. Wikipédia est sous licence Creative Commons CC BY-SA. Nous y reviendrons. Et cette vidéo et son texte sont eux-mêmes sous cette licence. Cela veut dire que vous pouvez très bien le copier-coller, et même le modifier, et même le faire avec un but commercial, du moment que vous citez l'auteur et que vous republiez ensuite sous la même licence. Ce type de licence est directement inspiré de la licence GPL, typique du logiciel libre. Son but est de permettre, plutôt que de restreindre, la réutilisation et la modification. Elle impose par contre que les réutilisations et modifications soient elles-mêmes soumises à la même licence. C'est un choix politique du mouvement Free Software. Il s'agit d'assurer la propagation maximale des licences libres. Une contrainte que n'impose pas la licence LGPL, par exemple, typique des tenants de l'open source. Et cette simple différence est un choix politique fort. Wikipédia est dans la première catégorie, la plus politiquement revendicative. Cette vidéo est elle-même sous cette licence, ce qui fait que vous pouvez la réutiliser, mais aussi je réutilise moi-même dedans des morceaux que j'ai écrits ailleurs, ou même des morceaux écrits par d'autres qui sont sous cette licence. Ce n'est pas du plagiat ou de l'auto-plagiat, parce que les travaux sont cités. Dans cet exposé, je vais présenter une histoire de Wikipédia, mais je ne le ferai pas de manière chronologique. Je vais raconter quelques histoires, qui sembleront parfois anecdotiques, mais qui sont censées illustrer le point le plus important pour moi. L'entremêlement de tous les aspects de Wikipédia, techniques, politiques, sociologiques, bureaucratiques, juridiques, épistémologiques, dont on a parlé. Mais pour commencer, il faut quand même situer de quoi on parle. Wikipédia a été créée en 2001. Elle repose sur le financement d'une fondation de droit américain qui ne vit que de dons. Sa double originalité, qui explique son succès initial, c'est bien sûr que n'importe qui peut écrire dedans, mais aussi que Wikipédia repose sur une linkification interne, les mots en bleu qui renvoient vers d'autres articles Wikipédia à l'intérieur d'un article. Et c'est ce qui est la base de son succès dans le référencement. Wikipédia en anglais, mais aussi en français ou dans d'autres langues très répandues, est aujourd'hui une communauté de plusieurs milliers de membres très actifs, et dont le volume en articles a depuis longtemps écrasé toute autre entreprise encyclopédique de l'histoire. Le nombre d'articles se compte en millions quand les autres encyclopédies contiennent des milliers d'articles. La question de la fiabilité des articles de Wikipédia est un serpent de mer qui revient souvent dans la presse. Le fait que n'importe qui puisse modifier Wikipédia suscite un sentiment étrange d'incrédulité, particulièrement chez les deux corporations dont Wikipédia remet en cause l'autorité, les enseignants et les journalistes. Soyons clairs, tout le monde peut trouver en 5 minutes un article qu'il va juger mauvais. Tout simplement parce qu'il traite d'un sujet que l'on connaît bien. Mais Wikipédia est un projet en perpétuelle reconstruction. Chaque article est un processus dynamique. Et c'est pour cette raison que Wikipédia recommande de ne pas citer un article Wikipédia. Quelle version d'un article citez-vous exactement? L'essence même de Wikipédia est d'être améliorable. Vous ne trouvez pas fiable cet article? Consultez les sources fournies et faites-vous une opinion. Éventuellement, modifiez-le. S'il n'y a pas de source, ajoutez-en. Chaque Wikipédia, dans une certaine langue, est un projet indépendant des autres, avec ses propres règles. Mais 5 grands principes unissent tous les projets. Le premier, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. C'est tautologique, mais ça veut dire entre autres que des travaux de recherche n'y ont pas place. Quelque chose écrit dans Wikipédia est donc forcément de deuxième main, puisque cette chose doit être sourcée. Avoir été écrit ailleurs, dans une publication qui fait autorité. Le deuxième principe, c'est que Wikipédia est de ton neutre. C'est la question du style, mais aussi du principe d'écriture en cas de sujet controversé. Wikipédia est publié sous licence libre, on a vu en quoi il s'agit d'un choix politique. C'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est que Wikipédia est une communauté qui a besoin d'être inclusive pour assurer sa prospérité. Ce quatrième principe dit de ne pas mordre les nouveaux. Et enfin, le dernier principe, c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles que ces 5 principes. Toutes les autres règles peuvent être renégociées. Tous ces principes vont être illustrés dans les exemples que je vais maintenant vous raconter. Il s'agit de gratter la surface et de découvrir la machine à l'intérieur de Wikipédia. Rien de secret, tout est transparent. Mais peu de gens se donnent la peine de fouiller dedans. Mon but, c'est de parvenir à faire partager ma vision distanciée mais pas complètement de Wikipédia, puisque je suis aussi un modeste Wikipédien. Comme je le disais, il s'agit de faire toucher du doigt comment Wikipédia est un monde avec ses aspects techniques, ses aspects politiques, ces aspects sociologiques, bureaucratiques, juridiques, épistémologiques, uniques et aussi complètement entremêlés les uns les autres. C'est de l'histoire des sciences, ou plus exactement, ce sont des science studies, des études sur les sciences. Les anecdotes que je vais vous raconter ne sont pas anecdotiques. Elles ont pour but de révéler ces enchevêtrements en racontant une histoire. L'anecdote est censée surprendre sur un sujet que tout le monde connaît, mais personne ne connaît très bien, et révéler les tensions et les interpénétrations de tous ces thèmes, mais aussi provoquer des questions-réponses, particulièrement si l'anecdote a eu ou a un succès médiatique. La première anecdote raconte l'histoire d'un article Wikipédia auquel l'Élysée et le ministère de l'Intérieur se sont intéressés. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont l'Élysée a dû apprendre à contribuer à Wikipédia dans les règles de Wikipédia. Et non selon les règles de l'Élysée. Alain Marlet est un homme politique français, pas un des plus connus, mais il était secrétaire d'État en 2007 et un article Wikipédia lui est consacré. En février 2009, sa fille a été recrutée à l'université et il a été soupçonné d'être intervenu dans ce recrutement. Un article dans Rue 89 est paru à ce sujet. Considérant qu'il s'agit d'un événement notable et reposant sur une source fiable, un contributeur, Langladur, écrit un court paragraphe sur ce sujet dans l'article sur Alain Marley. Un des principes organisationnels sur lesquels repose Wikipédia est l'absolue transparence, et donc l'archivage de toutes les versions successives d'un article. Vous pouvez les consulter en cliquant sur l'onglet « Historique » en haut à droite de l'article. Si on descend jusqu'à la version du 13 février 2009 et qu'on la compare à la version suivante, celle du 9 mars 2009, on le voit, le passage en question a été simplement effacé. Vous saviez que Wikipédia est l'encyclopédie à laquelle tout le monde peut contribuer. Vous savez maintenant qu'elle est aussi l'encyclopédie que tout le monde corrige et que tout le monde surveille. Dans l'historique, on se rend compte aussi de qui effectue les modifications. Langladur avait ajouté le paragraphe. On n'est pas obligé de créer un compte sur Wikipédia pour contribuer. Si on ne le fait pas, c'est notre adresse IP qui s'affiche comme contributeur. La personne qui a effacé le paragraphe est 62.160.71.197. On laisse donc une trace quand on contribue anonymement, ce dont l'Élysée n'était pas au courant en 2009. Quelques heures plus tard, Pierre 73, qui considère que l'annulation est infondée, remet le passage en question. Une autre adresse IP, du ministère de l'Intérieur, cette fois, l'efface ensuite. Il s'agit d'une guerre d'édition, un épisode dans lequel un désaccord implique que l'article fait des allers-retours entre deux versions. En parcourant l'historique, on se rend compte que la deuxième effacement est annulée en 2 minutes, par Salbot, un robot de Wikipédia, chargé de gérer ce qu'il considère comme du vandalisme. Une guerre d'édition en est un. Comment se débloque une telle situation? Parfois par l'intermédiaire d'un médiateur, qui a pour mission que les contributeurs en désaccord arrivent à un consensus. Chaque article possède aussi sa page de discussion. C'est l'endroit où l'article de ton neutre se construit dans le dialogue, quand les gens qui contribuent ne sont pas d'accord. Un contributeur, Lando75, supprime à nouveau le passage le 11 mars, mais cette fois, il justifie sa contribution. Ce qui change tout, un dialogue sur son point de vue commence alors à propos de ce désaccord. En consultant l'historique des contributions de Lando75, on se rend compte que le compte a été créé à cette occasion, qu'il n'a plus jamais contribué après mars 2009 et que toutes ses contributions concernent l'article d'Alain Marley. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les personnes cherchant à faire disparaître ce paragraphe ont appris à contribuer dans les règles de Wikipédia, c'est-à-dire justifier leurs modifications et essayer d'atteindre un consensus par le dialogue. Évidemment, la révélation des adresses IP concernées a fait un buzz dans les médias. Ce qui n'était qu'une minuscule affaire politique est devenu un mini-scandale médiatique, un « epic fail », et plus personne n'a ensuite essayé de supprimer ce paragraphe. Pourtant, si vous le cherchez dans la version actuelle de l'article, il n'y est plus. En consultant l'historique, on se rend compte qu'il a finalement été supprimé des années plus tard, ce qui était considéré comme un événement important dans la biographie d'Alain Marley en 2009, a été considéré comme anecdotique en 2010, une fois le soufflet médiatique retombé. La deuxième anecdote raconte l'histoire d'une photo, et comment cette photo a posé des questions juridiques inédites, grâce à Wikipédia. Est-ce que vous connaissez le selfie du macaque? C'est une photo d'un macaque des îles Célèbes, une photo un peu particulière, puisque c'est un selfie. C'est le singe lui-même qui s'est pris en photo. En 2011, alors qu'il est en reportage en Indonésie, David Slater, un photographe animalier britannique, se fait emprunter son matériel photo par un macaque nègre. L'animal réalise quelques clichés de lui-même. Le photographe, c'est son métier, vend les reproductions du selfie du macaque, dont l'originalité lui vaut un buzz médiatique. Jusque-là, tout va bien. Mais en octobre 2014, un contributeur de Wikipédia importe les images en question sur Wikimedia Commons et indique, ce faisant, qu'elles sont dans le domaine public. Wikipédia est en effet publié sous licence libre. C'est le troisième des cinq principes fondateurs. Et cela vaut aussi pour la médiathèque en ligne Wikimedia Commons, dont les images, vidéos et sons sont publiés sous des licences libres. Cette banque d'images collaboratives peut faire émerger des questions juridiques et politiques complexes. Le Monde, la BBC, Time Magazine ou encore The Guardian se penchent sur une question épineuse et quelque peu insolite. Un animal peut-il détenir des droits d'auteur? L'agence photo de David Slater réclame à la Wikimedia Foundation, hébergeur de Commons situé aux États-Unis, la suppression des photographies ou alors le paiement de droits d'auteur. La fondation refuse. S'engage en parallèle un débat entre contributeurs et contributrices de Commons sur le détenteur du copyright. Est-ce le photographe animalier qui n'a certes pas pressé le déclencheur, mais qui a préparé la séance photo? Auquel cas les clichés doivent être supprimés de la médiathèque libre. Ou bien le macaque est-il le seul auteur des images? Ce qui signifie qu'elles n'ont pas de copyright et sont dans le domaine public, car un animal n'a pas de droit d'auteur. De nombreux avocats ont des avis divergents, surtout que certains invoquent le droit américain et d'autres le droit britannique. Après plusieurs propositions de suppression, largement commentées par la communauté de Commons, les photographies sont conservées en l'attente d'une décision officielle du Bureau américain du droit d'auteur. En décembre 2014, celui-ci annonce finalement que les photographies prises par des êtres non humains ne sont pas soumises à un copyright. Une ultime discussion entre contributeurs en février 2015 valide le maintien des photos dans le domaine public sur Wikimedia Commons. Aujourd'hui, tout le monde peut admirer les clichés du macaque sur Wikipédia, que ce soit Wikipédia en français, en anglais et depuis n'importe quel pays. Pour cela, il aura fallu qu'un tribunal américain tranche une question de droit d'auteur complexe. En 2016, l'affaire rebondit pourtant. L'Organisation de défense des animaux PETA a attaqué en justice afin de revendiquer les droits des photos prises par le singe, en invoquant que l'association représente ses intérêts. Le tribunal de San Francisco l'a débouté, mais les procès concernant le selfie du macaque ne sont sûrement pas terminés. Certaines contributions soulèvent des questions juridiques, mais le selfie du macaque est unique. Il montre que les choix politiques, les choix de licence des projets Wikimedia peuvent forcer le monde à changer. En l'occurrence, le monde du droit a été forcé de prendre position sur une œuvre créée par un non-humain, grâce à Wikimedia Commons. La troisième anecdote pose la question de ce qu'est une source fiable, selon Wikipédia, et la difficulté qu'ont certains à le comprendre. Philip Roth est un écrivain américain, très connu aux États-Unis et dans le monde entier. Il a écrit en 2000 un best-seller, The Human Stain, en français La Tache. À sa sortie, parmi les critiques littéraires élogieuses du livre, certains, comme un article de la revue littéraire Salon, voient dans le héros du livre, Coleman Silk, un personnage inspiré d'une figure du monde littéraire réel, Anatole Brouillard. L'article Wikipédia sur le roman, en anglais, mentionne cette référence. Le 20 août 2012, le passage en question est effacé avec une justification étrange. Je suis le biographe de Philip Roth et je supprime ce passage à la demande de Philip Roth. Le passage en question est rétabli. Le vandalisme par usurpation d'identité est courant. Il est de nouveau effacé avec le même argument, puis de nouveau rétabli. Quelques jours après, le 7 septembre, paraît dans le New Yorker une lettre ouverte de Philip Roth à Wikipédia. Dans cette lettre, l'écrivain affirme que Coleman Silk n'est pas inspiré par Anatole Brouillard, qu'il le sait bien puisqu'il est l'auteur du livre, qu'il a essayé de retirer de Wikipédia ce passage erroné et qu'on lui a répondu que, même convaincu qu'il s'agissait bien de Philip Roth, on ne voulait pas accéder à sa demande tant qu'il ne fournirait pas des sources vérifiables dignes de foi. S'ensuit alors un buzz médiatique. Le Guardian et d'autres quotidiens relatent l'affaire. Comment Wikipédia peut-il mieux savoir que l'auteur lui-même ? Pourtant, en regardant de plus près le passage incriminé, rien n'est faux. Certains critiques, mais aussi des universitaires, ont effectivement imaginé que Coleman Silk est inspiré d'Anatole Breuillard. C'est ce que rapporte Wikipédia. Il y a mieux. Le passage indique même que Philip Roth n'est pas d'accord avec cette interprétation, en citant une interview de lui dans Bloomberg News. D'un côté, l'auteur à succès veut être maître de son image, de son œuvre et de son inspiration. Il clame son incompréhension d'être nié par une foule d'ignorants. De fait, la page de discussion de l'article possède des dizaines de contributions à ce débat tout au long de l'automne 2012. De l'autre côté, du point de vue de Wikipédia, il est nécessaire de rendre compte de tous les points de vue, ou plus exactement de tous les points de vue qui sont vérifiables. Qu'est-ce que c'est être vérifiable ? C'est sourcer ces affirmations et préférer des sources secondaires, c'est-à-dire des analyses a posteriori, plutôt que des sources primaires, le document originel ou l'auteur lui-même. Dans notre affaire, les critiques sont sourcées. Il n'y a aucune raison de ne pas les prendre en compte selon Wikipédia. Philip Roth n'est pas d'accord, on en rend compte aussi. Philip Roth le prend mal et écrit une lettre ouverte dans le New Yorker. La source primaire, la voix indignée de l'auteur, devient une source secondaire. C'est le principe de neutralité, le deuxième principe fondateur de Wikipédia. Tous les points de vue sont recevables du moment qu'ils sont vérifiables, c'est-à-dire qu'ils sont référencés dans des sources fiables. Il ne s'agit pas de trancher pour savoir qui a tort ou qui a raison. Il s'agit d'avoir un panorama de ce qui s'écrit sur la question, et c'est parfois un subtil et fragile équilibre. Ce qui constitue une source fiable est aussi parfois un dilemme. L'affaire a ensuite eu un épilogue. Un post Facebook de la fille d'Anatole Breuillard réfute le témoignage de Philip Roth. Contrairement à ce que ce dernier affirme, Philip Roth aurait connu son père. Mais un post sur un mur Facebook n'est pas considéré comme une source fiable, contrairement à une publication dans une revue comme le New Yorker. Les choses deviennent encore plus complexes quand ce post Facebook est ensuite cité dans Salon. Les affirmations de la fille acquièrent une légitimité au moment où le journaliste de Salon la cite. Pour un historien, la critique des sources est un point crucial. Dans ce cadre, la relation entre Wikipédia et ses sources est un objet d'étude passionnant. Dans la dernière histoire, Wikipédia a un moins beau rôle. L'histoire que je vais raconter pose le problème de la principale critique que l'on peut faire à l'encyclopédie. Wikipédia est un homme blanc, occidental, bien éduqué et hétérosexuel. L'encyclopédie est construite dans ce moule, dans son contenu, mais plus encore dans les règles. L'histoire des problèmes de Wikipédia Zéro, en Angola, racontée dans Vice, illustre cet aspect. Wikipédia Zéro est un projet qui consiste en une négociation avec les opérateurs de téléphones mobiles africains pour rendre l'accès à Wikipédia et Wikimedia Commons gratuit dans les forfaits donnés des téléphones. En Afrique, l'Internet, autrement que sur mobile, est rare. Wikipédia Zéro, mais aussi Free Basics, le projet équivalent chez Facebook, est le seul Internet accessible à l'immense majorité des Angolais. Le coût des forfaits données téléphoniques sont inaccessibles, ce qui a pour conséquence qu'une grosse partie de la population ne voit d'Internet que Wikipédia et Facebook. D'autre part, la loi sur le copyright est beaucoup plus permissive en Angola qu'aux USA et dans les autres pays occidentaux. Wikimedia Commons, la base de données de fichiers multimédia sous licence libre qui permet le versement de photos dans Wikipédia, est utilisée par des Angolais pour y uploader des tas de choses, y compris des films, des photos, des musiques piratées. La communauté wikipédienne réagit Logiquement, selon les règles de Wikipédia, il s'agit de copy-view, c'est-à-dire une violation de copyright. Elle réagit en bloquant des plages entières d'adresses IP, empêchant de facto la contribution à Wikipédia de nombreux Angolais. Dans certains pays, dont l'Inde, les offres Wikipédia Zero et Free Basics sont jugées illégales parce qu'elles contreviennent à la neutralité du net. D'un certain point de vue, paradoxalement, Wikipédia devient donc, par l'intermédiaire de Wikipédia Zero, à la fois un fossoyeur de la neutralité du net et un gardien du lobby de l'industrie du copyright. C'est un exemple de colonialisme numérique, au sens où Wikipédia impose des normes du Nord aux gens du Sud. Mais un colonialisme numérique d'une nature différente de celui de Facebook, Free Basics. Autant la stratégie de Facebook est sans ambiguïté, il s'agit de transformer une portion de plus en plus grande de l'humanité en utilisateurs consommateurs captifs de leur écosystème, autant le colonialisme de Wikipédia porte en lui la contradiction et la tension d'un militantisme du libre et d'un légalisme. Toutes ces histoires nous ont permis de mieux comprendre Wikipédia. Elles ont révélé l'enchevêtrement des différents aspects que j'ai mentionnés. Elles portent toutes en elles des points de tension, qu'ils soient futiles ou primordiaux, qui permettent de mettre en lumière la machinerie de Wikipédia, d'en faire une analyse critique. J'espère avoir montré aussi en quoi Wikipédia est un objet de recherche intéressant, non seulement pour l'historien des sciences, le sociologue ou le politiste, et en quoi cet objet de recherche nous apprend des choses sur nous. Wikipédia devient aussi de plus en plus un corpus de données et de métadonnées, permettant aux chercheurs d'imaginer coupler méthodes qualitatives et méthodes quantitatives, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de recherche.